Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Boussouma, voici le sommaire. L'accord RDC-Rwanda signé à Washington se concentre sur la paix et n'a rien de bradage concernant nos ressources naturelles. Déclaration de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, répondait ainsi à une certaine opinion qui estime que cet accord consiste à la vente de nos ressources au prix de la paix. Dialogue de paix à Roudeux en Ituri. Les groupes d'autodéfense Zaïre et Mapi se joignent aux autres groupes armés en signant le protocole d'accord de paix. Toutefois, ils formulent des demandes à l'endroit du gouvernement pour un retour définitif de la paix en Ituri. Et puis, l'invité de ce midi, Freddy Kita, ancien ministre de la coopération régionale. Il plaide en faveur de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale et appelle les Congolais ayant pris les armes à revenir à la raison. Madame, Messieurs, bonjour. L'accord signé vendredi à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se concentre sur la paix dans l'est de la RDC et n'a rien de bradage de nos ressources. Ces propos sont de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, s'exprimer ainsi sur la télévision nationale. Elle insiste sur le respect de cet accord pour une paix concrète dans la région, telle que recommandée également par le président américain Donald Trump. On écoute le ministre, la ministre Thérèse Kayikwamba dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
S'il y avait eu bradage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix, je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons signé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix dans lequel il n'y a aucune provision sur les questions économique sur les questions de minerais stratégiques. Et cet accord est très clair. Il prévoit justement la fondation pour un environnement propice dans lequel on peut aussi envisager un retour, si vous voulez, d'investisseurs, où on peut aussi envisager une économie plus dynamique. Et donc, à ceux qui pensent justement que cette paix a été obtenue justement à travers un bradage de nos ressources, je dis non, ce n'est pas le cas. L'accord se concentre sur la paix, il se concentre sur le rétablissement de l'autorité de l'État, et il se concentre justement sur la création de conditions propices pour une économie dynamique, chose que nous souhaitons évidemment pour nos compatriotes à l'Est et pour tout le reste de la République démocratique du Congo.
L'accord RDC-Rwanda signé sous l'égide des États-Unis montre clairement que la crise actuelle dans l'Est de la RDC a toujours été dès le départ une guerre économique. C'est en tout cas l'analyse de Joe Sekimonio, professeur d'économie au sein de plusieurs universités internationales. Selon cet intellectuel congolais, il est impératif que le gouvernement congolais mette tout en œuvre pour que cet accord bénéficie directement au peuple congolais. Cela passe notamment par la priorisation des entreprises congolaises. Écoutez le professeur Joe Sekimonio.
À la voix aussi de ce qui a été signé hier, on parle pas de la protection tout si en RDC. Ça veut dire c'était une guerre économique dès le début et avoir la signature, le Rwanda est prêt à jeter au lac ses pantins parce qu'il y a nulle part. On fait référence à la logique dans laquelle il y a une certaine minorité au Congo qui sont en danger, que le Rwanda se voit obligé de protéger. Ça a été une histoire économique et pour son intérêt économique à long terme, le Rwanda est prêt à s'effacer du tableau. Mais cette signature ne garantit pas la paix. J'oublie plutôt, c'est une trêve. On peut tourner tout ça en profit des Congolais. Ça veut dire, quand on va aller dans le deal US-RDC, au lieu que ça soit le deal entre le gouvernement congolais et les multinationaux américains sous l'égide de l'administration Trump, ça devait être le business congolais avec le business américain sous l'égide de l'administration Tshisekedi et l'administration Trump.
Je vous le disais en titre, 24 heures après avoir suspendu leur participation au dialogue de paix tenu cette semaine à Arua en Ituri, les groupes armés d'autodéfense, Zaïre et Mapi, ont finalement apposé leur signature hier samedi sur le protocole d'accord de paix. Ces groupes armés protestaient contre l'assassinat la veille, donc le jeudi, de 11 civils dans le camp des déplacés de Djangui dans le territoire de Djougou. Toutefois, ces mouvements armés formulent plusieurs demandes à l'endroit du gouvernement pour un retour définitif de la paix dans la province de l'Ituri. Martial Kizabia Mungu nous en parle.
Après plusieurs heures de conciliabules et d'échanges, ensemble cette fois, les représentants des groupes armés de l'Ituri ont été levés de voir cette province recouvrer la paix pour permettre à la population de circuler librement et aux personnes déplacées de retourner dans leurs milieux respectifs. Mais cela a un prix et un coût. Ainsi donc, ces miliciens demandent au gouvernement de mettre à la disposition des groupes armés des moyens logistiques importants pour leur permettre de sensibiliser leurs troupes au processus de paix. Pour le reste, les groupes armés exigent du gouvernement la libération de tous leurs éléments détenus dans les prisons à travers les pays et proposent d'organiser un dialogue franc pour la paix et la cohésion sociale. Ils demandent également au gouvernement un accord de paix bilatéral dans un délai raisonnable. Enfin, ils préviennent que les attaques contre eux pourraient remettre en cause ces fragiles processus de paix. Depuis Arou, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Restons en Ituri. La société civile de Mambasa demande au FARDC de traquer les EDF pour libérer une quarantaine de personnes prises en otage mercredi au village des Lakés, à environ 200 km au sud-ouest de Bounia. Selon cette structure citoyenne, ces rebelles ont érigé leur bastion dans les chefferies de Babila Bakwanza et Babombi, où ils font payer des taxes aux habitants pour accéder à leurs champs et circulent dans la forêt en toute quiétude. Isaac Remoyope nous fait le point.
La présence des rebelles des ADF observée depuis plus d'un mois dans la zone inquiète la population dans les territoires de Mambasa. Le mercredi dernier, des affrontements ont été signalés entre un groupe de miliciens Maïmaï et ses rebelles à Elake vers Biakato. Des miliciens ont été tués, au moins 40 personnes prises en otage. Leur sort n'est pas encore connu jusqu'à ces jours. La nouvelle société civile de ces territoires dénonce la léthargie des forces conjointes et FARDC UPDF pour traquer ces ADF qui ont établi leur bastion dans les chefferies de Babilaba, Bombi et Bakwanza à la limite avec les territoires d'Irumu en Ituri et de Beni dans le nord Kivu. Elle ajoute que ces ADF circulent avec leur cheptel librement dans la région et sont aperçus chaque fois par les paysans qui se rendent dans leurs champs. Selon la coordonnatrice de cette structure citoyenne, plusieurs alertes faites aux autorités militaires ne sont pas suivies d'effet. Marie-Noël Anotane.
Vous avez pris les gens en otage. On nous parle d'une quarantaine. Nous avons déjà fait les plaidoyers plusieurs fois. Nous avons même écrit. Jusque-là, vraiment, il n'y a pas d'opération dans ces coins-là. Vous apprenez que ces hommes-là, ils imposent à la population des taxes. Ils sont passés de côté gauche vers côté droite sans être inquiétés avec des troupeaux, avec des personnes prises en otage.
L'administrateur du territoire de Mambasa rassure que les opérations sont en cours pour libérer ces otages dont le nombre n'est pas déterminé. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, les forces de la coalition des armées congolaises et ougandaises ont lancé jeudi un assaut contre un groupe de Maïmaï actifs sur la colline Muola et sur l'axe Biambwe-Masingi dans le territoire de Lubero. L'administrateur de territoire parle d'un groupe Maïmaï dirigé par un certain commandant surnommé Le Blanc, auteur de plusieurs exactions contre les civils dans la zone. Il annonce que les FARDC et l'UPDF viennent de déloger ce groupe de 5 localités où il était actif. Le colonel Alain Kiwewa explique, il est joint par Martial Papi Mukeba.
C'est depuis le mercredi 25 qu'il a été mis une opération contre le groupe armé dirigé par un certain Leblanc, suite à plusieurs abus que ces groupes a commis dans la chefferie de Bassois. Et en ce qui concerne le bilan, plusieurs entités qui ont été occupées par ces groupes armés venaient de passer sous le contrôle de la mission conjointe UPDF et FARDC. Il y a la localité de Kaembe, il y a la localité également de Maboya, il y a la localité également de Mulundu, et il y a aussi Kalundu, il y a aussi Kamaho. Pratiquement, ce 5 localités qui étaient sous contrôle de ces groupes armés sont passées au contrôle de la coalition UPDF, le FARDC. Demande seulement à la population d'avoir confiance à l'autorité.
Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, promet le soutien du gouvernement congolais à l'Alliance des patronats francophones, APF. C'est ce qui ressort de sa rencontre hier samedi avec la délégation de l'APF à Kinshasa. À en croire le ministère de l'économie nationale, cette rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur les opportunités économiques et des investissements en République démocratique du Congo, ainsi que sur les perspectives de coopération entre le secteur privé congolais et ses partenaires francophones. zone. Des précisions avec dans ce reportage de Grace Hamzati rendu par Vanessa Kongolo.
Au cours de cette rencontre, Geoffrey Rodebissieu, le président de l'Alliance des patronats francophones, a exprimé sa volonté de promouvoir la RDC comme une terre d'opportunités pour les entrepreneurs du monde entier, en particulier ceux issus de l'espace francophone. Il souligne deux principaux axes. Tout d'abord, faire connaître la RDC comme une région propice à l'investissement et à l'entrepreneuriat au sein de leur réseau, en combattant les préjugés qui peuvent freiner l'investissement en Afrique. Ensuite, lutter contre le préjugé en valorisant la RDC malgré les crises conjoncturelles qui connaît le pays. De son côté, le vice-premier ministre Daniel Moukoko Samba réaffirme son attachement à un dialogue permanent entre le secteur public et le secteur privé, soulignant que le développement économique du pays ne peut se réaliser sans cette synergie. Daniel Moukoko Samba a fait part à ses interlocuteurs de la volonté du gouvernement congolais d'accompagner ces initiatives et de renforcer les liens économiques avec ce partenaire francophone.
Rendons-nous dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Ici, nous apprenons que certaines informations font état de l'existence d'une taxe mensuelle de $5 imposée à chaque ménage pour le ramassage des déchets domestiques. Le chef du bureau de l'environnement dément fermement ces allégations. Moïse Adirodou parle d'une manipulation orchestrée par des personnes mal intentionnées. Il met en garde contre ces pratiques et appelle la population à poursuivre ses efforts en matière de gestion responsable des déchets. Moïse Adirodou est au micro de Marc Marofimbo.
Ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce genre de personnes veulent salir le service ou soit la mairie. Et c'est que moi, je sens bien que dans le marché de Mayango, c'est une fois produit le déchet, on demande 1000 francs pour la maintenance du véhicule qui nous aide à ramasser le déchet. Et ce genre de personnes risquent d'intoxiquer les gens, de rentrer encore dans la case de départ pour ne plus ramasser le déchet. Je les décourage. Mais je profite à cette occasion de saluer les commerçants car ils ont compris la gestion rationnelle des déchets ainsi que la population d'une manière générale. Cette stratégie de ramassage des déchets évolue très bien dans la ville de Beni, mais il s'est avéré qu'il y a quelques défaillances par rapport à la gestion des déchets plastiques, déchets ménagers, d'où certaines personnes déposent les déchets dans des cartons et certaines déposent cela dans des sacs. D'où j'invite à tout et chacun de bien garder le déchet dans les sacs et puis par la suite le véhicule de la mairie viendra prendre ces déchets pour l'évacuation dans les dépotoirs.
La campagne de sensibilisation de la jeunesse sur la cohésion sociale, la prévention et la gestion des discours haineux organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a réuni une centaine de jeunes, quelques activistes des droits humains ainsi que les professionnels des médias vendredi à Kinshasa. Élise Kavira était aussi de la partie reportage.
Quelques acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, les étudiants des différentes universités, les jeunes protestants et catholiques, ainsi que ceux venus des différents mouvements citoyens, se sont réunis pour cette journée de conscientisation sur l'impact de messages de haine sur la cohésion sociale et le rôle de la jeunesse dans cette lutte. Mamadou Diallo Saliou, coordonnateur du BCNUDH Kinshasa, venu pour représenter le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies Droits de l'Homme, explique le but de ce programme.
Les Nations Unies sensibilisent les jeunes à jouer un rôle dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Et cette résolution recommande aux États à accroître la participation des jeunes au processus de prise de décision et à soutenir leurs initiatives en faveur de la paix.
Trois intervenants, dont Alidou Ngapna du BCNUDH, Josué Nguida, ancien coordinateur de la plateforme des élites des jeunes universitaires, ainsi que Suzanne Akumu, coordinatrice du réseau international des jeunes pour le développement durable, ont à tour de rôle pris parole pour rappeler aux jeunes présents dans la salle le rôle qui est le leur dans l'effectivité de la cohésion sociale en RDC. Patience Kapafoulé, vice-présidente honoraire du Club des droits de l'homme de l'UNIKIN, nous partage ses impressions.
Bien évidemment, j'ai été satisfaite à 100%. Je suis en quelque sorte un échantillon qui doit aller parler aux autres jeunes des méfaits des discours de haine sur notre population.
Pour sa part, Emerson Mwanga, président du réseau d'appui à l'intégration en Afrique, section RDC, souhaite que ce genre de programme soit plus inclusif.
Moi, je pense qu'il faudra organiser ce genre d'activités, mais de grandes envergures, pour permettre à tout le monde de participer, aux enfants de la rue, les élèves et toutes les personnes qui sont en mesure de comprendre ce message.
Au cours de leurs différentes interventions, les panélistes ont insisté sur la bonne utilisation des médias et réseaux sociaux au profit de la cohésion sociale.
Assurer l'accès à l'éducation de qualité pour tout enfant atteint d'albinisme, c'est l'objectif poursuivi par la Fondation Giulio Levotre, une structure de défense des droits des personnes vulnérables, en marge de la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme célébrée le 13 juin de chaque année. Une matinée de sensibilisation a été organisée à cet effet vendredi à Kinshasa. Cette 5e édition était une occasion d'attirer l'attention des autorités afin de les amener à fournir plus d'efforts pour mettre fin aux discriminations et à la stigmatisation dont sont victimes des personnes atteintes de cet handicap. Plotin Yambenga, reportage.
Venus de plusieurs coins de la capitale, les participants à cet atelier étaient une centaine. Enfants, parents, tous ont salué cette initiative qui, selon eux, permet à la population de bien comprendre les phénomènes d'albinisme. Des avancées majeures ont été enregistrées dans la lutte contre la stigmatisation. Cependant, beaucoup reste encore à faire, estime les coordonnateurs de cette structure, Julio Kalala. Par ailleurs, il souligne la nécessité d'assurer un accès à l'éducation pour ces personnes, principalement les enfants, afin d'assurer leur intégration sociale.
La Fondation Julio, c'est une structure qui s'occupe des enfants atteints d'albinisme et de leur mère. Car les mères que vous voyez sont les premières victimes du rejet, des discriminations de personnes atteintes d'albinisme.
Chez les participants, cette 5e édition apporte joie et satisfaction. Toutefois, ils sollicitent l'accompagnement des institutions du pays et des organisations humanitaires pour que la sensibilisation atteigne les couches de la population vivant dans des zones rurales où la stigmatisation est l'un des défis majeurs que vivent les albinos. Avec en son sein 81 enfants et 57 mères prises en charge, la Fondation Giulio Levotre milite également pour un accompagnement aux soins de qualité. Pour ce faire, elle a initié des projets d'installation de plusieurs antennes provinciales, notamment dans le Kwilu et au Congo central.
Actualité internationale. Le Soudan en proie à la guerre et des millions de personnes luttent pour trouver de quoi se nourrir. Beaucoup se tournent vers les mauvaises herbes et les plantes sauvages pour calmer les affres de la faim. Ils font bouillir les plantes dans de l'eau salée parce que tout simplement il n'y a rien d'autre, disent-ils. Ce sont des situations extrêmes auxquelles les gens ont recours pour survivre, a déclaré Lenny Kinsley, porte-parole du programme alimentaire mondial PAM pour le Soudan. Après 2 ans de conflit, plus de 24 millions de personnes au Soudan sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, soit près de la moitié de la population, selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire. Les travailleurs humanitaires affirment que la guerre a fait grimper les prix du marché, limiter l'acheminement de l'aide et réduit les terres agricoles dans un pays qui était autrefois le grenier du monde.
L'invité.
Il s'agit du ministre honoraire de la coopération régionale, Freddy Kita, plaide en faveur de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale qu'il considère comme les fondements de tout développement. Invité de Radio Kapi, il appelle les Congolais ayant pris les armes à revenir à la raison. Cet acteur politique encourage en outre le gouvernement à déposer la candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'OIF. Freddy Kita est avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour à Monsieur Freddy Kita.
Bonjour.
Vous êtes ministre honoraire de la coopération internationale. Quelle analyse faites-vous de la diplomatie congolaise?
On peut se dire aujourd'hui que la diplomatie congolaise, qui est très agissante, marche bien, bien qu'il y a beaucoup encore d'efforts à faire. Déjà, ce qui s'est passé à Malabo, avec le refus de tous les partenaires, nos pères africains, pour que le Rwanda accède à la tête de la CAC, c'était déjà un bon signe. Et ce qui s'est passé aussi au Conseil du secrétaire des Nations Unies avec notre élection, pour la troisième fois d'ailleurs, parce que peut-être les gens ne savent pas, à l'époque du Zaïre, on était déjà membre non permanent. Et là, on est en train de reprendre maintenant les devants de la scène internationale. Et je crois que cette diplomatie marche d'ailleurs sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi, que je félicite et que j'encourage. Et chaque acteur politique congolais doit aujourd'hui s'impliquer pour que cette diplomatie ne soit plus faible comme c'était dans le passé.
Que préconisez-vous en tant qu'acteur politique pour des solutions durables et efficaces contre la crise qui mine la RDC dans sa partie orientale?
Vous savez que notre pays a traversé plusieurs zones de turbulence, de guerres à répétition. Et aujourd'hui, comme nous le déplorons tous, il y a nos frères congolais qui sont manipulés par l'ennemi de la République, par les pays voisins. Et c'est pourquoi j'ai lancé, et je lance aussi, encore une fois, un message à nos frères qui sont en train de massacrer leurs propres frères congolais, qui sont en train de tirer à balles réelles contre leurs propres frères et sœurs congolais, de revenir à la raison. Parce que le Congo, c'est notre héritage commun. Ils n'ont pas droit de faire ce qu'ils sont en train de faire, qui reviennent à la raison. Le pays a besoin d'eux. Nous avons besoin de l'unité, de la paix et de la cohésion nationale. Alors, nous voulons un Congo uni, riche, prospère et fort. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas un Congo qui se déchire, un Congo où il y a tout le temps, il y a des rébellions, il y a des coups d'État. Non. Cette politique-là des rébellions, des coups d'État est révolue. Nous voulons aujourd'hui que tout se passe par la voie démocratique, comme on a vu en 2023 ici, en 2018, en 2006, en 2011. Nous voulons qu'il y ait des élections apaisées et que tout se passe par la voie des urnes et non par le tir à canon.
Que dites-vous par rapport à l'initiative du camp de la patrie portée par Martin Fayulu?
Il y a de cela 6 ans, jour pour jour, moi, Frédéric Kita, j'ai demandé et je demande toujours qu'il y ait l'unité de tous les Congolais. J'ai toujours demandé que tout acteur politique congolais s'élève et défende la patrie. Je suis très fier de moi parce qu'aujourd'hui, je vois que mes frères, mes compagnons m'emboîtent aujourd'hui les pas. Je suis fier de ça. Je ne suis pas là pour me taper la poitrine, mais je crois que mon message est bien passé. Très bien même.
Lors de votre récente sortie médiatique, vous encouragez le gouvernement congolais à déposer la candidature du pays au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce qui justifie cette démarche?
Aujourd'hui, nous sommes membres non permanents au Conseil de sécurité. La RDC, c'est un grand pays francophone, plus grand que la France même, le pays francophone le plus peuplé. Donc ce n'est que normal que la RDC soit candidate, qu'elle accède aussi à ses postes de secrétaire général. Donc ça, c'est ce message que j'ai lancé personnellement au président de la République, à la première ministre aussi, Judith Suminwa, pour que la RDC prenne la tête du secrétariat général de la francophonie. C'est très important pour nous. Et on ne peut pas, nous, un grand pays francophone, être derrière des petits pays qui sont d'ailleurs bilingues, anglophones. Là, c'est inacceptable. Nous devons mouiller les maillots, mouiller nos chemises et nous battre pour que, donc en 2026, ici, au Cambodge, que nous soyons élus au secrétariat général.
Monsieur Freddy Kita, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
L'ancien ministre de la coopération régionale répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jean Gandou. Alain Ngoy à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.